Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.
Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année civile à tous nos fidèles de cette émission Mémoire et Vigilance qui entame, écoutez bien, sa 44e année d'existence. Alors notre lutte continue sous le signe de la fidélité à l'endroit des nôtres assassinés pour le seul crime d'être et la lutte contre le prurit antisémite qui interroge la portée de la leçon d'Auschwitz. Tel est l'objectif de Mémoire et Vigilance qui a l'honneur de relayer la voix des nôtres et de nos amis en allée et de transmettre la mémoire de la Shoah avec le concours d'historiens, d'auteurs et d'enseignants, comme c'est le cas ce soir avec Céline Largier-Ville, maître de conférences en linguistique allemande et française, agrégée d'allemand, enseignante à la Sorbonne Nouvelle. Alors bonsoir Céline Largier-Ville. Alors il m'a semblé important d'évoquer la linguistique comme discipline rattachée à l'historiographie en général, puisque, on peut le dire, c'est une discipline qui est quand même relativement méconnue et il m'a semblé qu'effectivement elle avait toute sa place dans cette émission. Alors je sais que vous faites un certain nombre de travaux, de recherches, évidemment sur ce thème, mais on en parlera également. Vous avez des travaux qui sont engagés déjà depuis quelques années autour de la lecture que l'on peut faire autour des plaques qui sont posées à Paris, notamment pour commémorer, on peut dire, la Seconde Guerre mondiale. Alors, Céline, est-ce que vous pouvez définir ce que suppose donc cette discipline issue, encore une fois, des sciences humaines et son rapport avec l'histoire?
Oui, alors la linguistique, c'est un champ extrêmement vaste. Il va être difficile de résumer. On parle maintenant de science du langage. Ça va inclure le travail sur le lexique, les travaux de grammaire, la phonologie, toutes les sous-disciplines qui vont avoir pour objet la langue. Moi, la sous-discipline dans laquelle je me place, c'est ce qu'on appelle l'analyse du discours. C'est apparu à la fin des années 60, au début des années 1970. Une branche de la linguistique qui s'intéresse aux discours produits dans leur contexte, c'est-à-dire avec toute la dimension historique qui est attachée, la dimension politique, la dimension sociale, et qui redonne sa place à l'acteur, ce qu'on appelle le locuteur, pour s'interroger qui il est, de quelle place
il assume quand il parle,
sur la manière dont il s'exprime et sur également tous les présupposés que contient son discours, toute l'intertextualité qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les références à d'autres discours antérieurs qu'il va intégrer dans son discours. Donc voilà, c'est vraiment du discours en situation. Et non pas quelque chose d'abstrait, coupé de la réalité du monde dans lequel on vit.
Avec ce que sous-tend, je dirais, peut-être en toile de fond, et la société, et évidemment l'histoire en train de se faire.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec ce qui avait été l'objet d'un cours au Collège de France? Je vous dis ça de tête parce que c'est quelque chose qui m'avait frappé. 1977, c'était l'entrée de Roland Barthes au Collège de France.
Oui.
Et il avait, c'est un petit ouvrage sur lequel je reviens assez souvent, ça s'appelle Leçon, je ne sais pas, vous devez connaître cet ouvrage, ça s'appelle Leçon. Et est-ce qu'il y a, un pont que l'on peut faire avec la linguistique? Puisque lui, il parle de sémiologie, à ce moment-là, sémiologie du langage.
Oui, bien sûr, de toute façon, la sémiologie est, d'une certaine façon, une branche de la linguistique, là encore.
Oui, et alors il dit une chose que j'ai retenue. Il dit la langue peut être fasciste, elle est fasciste dans la mesure où, en fait, elle oblige à respecter toute une nomenclature. Il n'empêche que, en fait, l'écrivain, c'est celui qui va, en quelque sorte, innover dans la langue. Voilà.
Tout à fait. Il y a des contraintes,
c'est ça,
évidemment.
Des contraintes
liées à la langue, mais malgré tout, une marge de liberté qui peut expliquer, par exemple, la polysémie de certains termes, qu'un terme puisse être utilisé dans différents contextes avec des sens des significations différentes. Donc, un mix de contraintes et de liberté.
Ça, c'est ça. Mais là où vous êtes importante, je dirais, dans votre recherche, et le faire savoir, c'est que, évidemment, il y a des abus de langage, quoi. On le sait aujourd'hui, on en parlera, notamment mettre le mot génocide à toutes les sauces, si je puis dire. Et puis, peut-être revenir aussi, peut-être qu'on n'a peut-être pas assez travaillé dessus, mais c'est le fait que, lors de la solution finale, les nazis eux-mêmes utilisaient un langage, je dirais, de perversité qui consistait à masquer la vérité, bien sûr. De manière à mieux diriger les personnes vers les camps de la mort. C'est une réflexion que vous faites aujourd'hui autour de cet abus de langage, notamment avec, il faut le dire, ce qui s'est passé il y a encore... il n'y a pas si longtemps avec le 7 octobre, la tragédie du 7 octobre.
Oui, les nazis ont de toute façon cherché à masquer leurs actions par des noms de code, par exemple. Hein, je pense à l'action T4.
C'est ça.
En direction des personnes handicapées.
Qui commençait bien avant, je dirais, la Shoah elle-même.
Oui, bien sûr. Hein,
puisque ça touchait, il faut le rappeler pour nos auditeurs, c'est que ça touchait la population allemande elle-même, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient... qu'ils qualifiaient de Untermenschen, c'est-à-dire ceux qui étaient hors normes, hein, en particulier.
Oui, qui n'étaient pas utiles à la société, et voilà, qui constituaient un poids pour la société, effectivement.
Oui, oui. Et donc, pour ce qui concerne donc, l'abus de langage moderne, entre guillemets, là, c'est quelque chose qu'il faut pointer aussi, c'est le fait qu'on utilise, par exemple, le mot génocide, je crois que vous pouvez revenir dessus, d'une manière complètement erronée, quoi.
Oui, le terme génocide. Alors, il y a une très, très intéressante fiche qui a été réalisée par Simon Perrego, qui est un historien, qui est l'auteur d'ailleurs d'un ouvrage qui s'appelle Pleurons-les, les Juifs de Paris et la commémoration de la Shoah, qui est paru, c'est tiré de sa thèse, et le livre est paru chez Champvallon en 2020, sur le site de l'Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe. Où il fait l'historique de ce terme. Hein. Donc, l'origine de ce terme, c'est un juriste d'origine polonaise, Raphaël Lemkin, qui assiste au procès d'un des responsables, le procès de l'assassin d'un des responsables du génocide arménien, le premier à qui on a donné ce nom de génocide, et qui, toute sa vie, a lutté pour qu'on reconnaisse cette forme de crime, cette forme de massacre. Il est parti aux États-Unis dès 1939 pour fuir les pogroms. Hein, et c'est aussi cette expérience des pogroms qui l'a incité à travailler dans ce sens. Mais le terme génocide, au départ, c'est un terme juridique. Il y a une... c'est une définition... c'est un terme qui n'a pas été repris dans le verdict des procès de Nuremberg, même s'il a déjà circulé à cette époque-là. Il est rentré dans le droit international en 1951 par le biais de l'ONU, qui adopte une convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide. C'est la première fois que ce terme est officiellement reconnu. Mais il a cet ancrage juridique, et à partir du moment où il est repris en dehors de ce cadre juridique, on peut malheureusement lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Et puis il est aussi en concurrence avec d'autres expressions, d'autres terminologies, comme crime contre l'humanité.
Oui.
Et voilà, je sais que c'est un débat aussi à ce niveau-là entre faut-il parler de génocide ou de crime contre l'humanité.
Pardonnez-moi, il faut que les mots soient très précis pour la définition du génocide, tel que le dit son initiateur. Est-ce qu'on peut reprendre sa formule ou
Lemkin parlait de destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique visé en tant qu'entité.
C'est ça. Alors, c'est évidemment le cas de ce qui va se passer avec le génocide arménien, il faut quand même le rappeler, et montrer aussi et dire que, en fait, comme il n'y a pas eu de conséquences, d'une certaine manière, après, ça a donné aussi les coups des franches à certains Hitler, qui, en fait, on pouvait observer que c'était comme une sorte de répétition qui allait se faire, plus évidemment, ce que vous avez pointé tout à l'heure, c'est-à-dire l'opération T4.
Le problème qu'il y a aussi dans, ce, dans toute définition, de toute façon, c'est le problème de chacun des termes qui sont employés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une nation? Qu'est-ce qu'on entend par un groupe ethnique? Et là, c'est vertigineux. À partir du moment où on se pose la question de tous ces choix terminologiques, ça devient très compliqué parce que si on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on met derrière ces étiquettes, c'est la porte ouverte à des interprétations très divergentes.
Oui, mais c'est là encore une fois où la sémantique, le langage est essentiel. Parce que sinon, c'est la voie ouverte au dérapage.
Oui.
Et on l'a vu, Dieu sait si on l'a vu, dans l'actualité. Alors, il y a aussi un point, puisqu'on s'était parlé aussi avant l'émission, il faut le dire, et je voulais vous interroger sur des points particuliers qui vous intéressent. Il faut peut-être revenir sur ce que vous appelez l'illusion de la neutralité dans le discours historiographique. C'est que cette illusion, elle est quand même importante aussi à signaler. Moi-même, de mon côté, j'ai fait des recherches, et en particulier sur la notion de relation entre histoire, langage et politique, parce que il y a un pont qui se fait. Si on parle de neutralité, c'est que les règles admises par la discipline historique doivent bannir normalement tout jugement de valeur et proscrire ce qu'on appelle l'anachronisme. Ça, c'est une règle d'or, je vois, vous êtes certainement d'accord. Et à savoir, c'est ça la phrase importante, se garder d'envisager le passé avec l'œil du présent, ça c'est le défaut souvent, et ou envisager le présent avec l'œil du passé. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? Pardonnez-moi, j'avais du mal à retrouver mes notes.
Non, bien sûr. Mais... Alors, je vous avais parlé effectivement de la neutralité ou de l'illusion de neutralité du discours historiographique, mais je dirais que c'est l'illusion de neutralité la langue et du discours de manière générale. S'il peut exister des polémiques sur des termes, etc., c'est bien parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, chacun parle depuis une position. Depuis un lieu, dans un rôle particulier, avec un passé particulier, un bagage culturel, etc., particulier, qui ne peut pas ne pas influer. C'est très difficile de se détacher de tous ces...
C'est ça.
Je parlerais presque de déterminisme, d'une certaine manière.
De sa subjectivité, tout simplement.
Oui, de ses idées politiques, etc. Et avec toute la bonne volonté du monde de la part d'un chercheur, qu'il soit historien d'ailleurs, ou sociologue, ou linguiste aussi. L'objectivité, la neutralité, c'est évidemment un idéal, mais il y a toujours une marche entre l'idéal et la réalité.
Osons le dire, un idéal inachevé, par essence.
Parce qu'on ne peut
pas être exhaustif complètement et rester complètement neutre. Mais je vous écoute, et à ce moment-là, ça me laisse penser que en réalité, ce qu'il faut absolument, privilégier au niveau de l'éducation, pour les jeunes générations en particulier, c'est de développer l'appareil critique. C'est-à-dire de prendre du recul. Est-ce que vous croyez, alors c'est une question comme ça, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, dans les leçons d'histoire, dans l'enseignement qui est donné à l'éducation nationale, est-ce que, en fait, c'est quelque chose dont on prend... compte d'une certaine manière, mais difficile à répondre.
Vous me posez un peu une colle parce que je suis pas professeur d'histoire, donc j'ai pas cette expérience-là. J'ose espérer que c'est ce que mes collègues historiens font.
Oui, mais là encore, il y a tout un champ. Tout un champ à travailler, à développer, parce que si on revient à la base, c'est-à-dire avec ce que vous nous dites concernant la neutralité, concernant l'illusion, je reviens à ça. Il s'avère que, en fait, il faut savoir décoller, prendre du recul avec ce qui est dit, y compris, et je pèse mes mots, y compris avec les historiens qui seraient même les plus compétents, parce que, en fait, chaque historien a son propre regard en fonction de ce que vous venez de dire, la subjectivité, le passé, etc. Et que dans ce sens-là, il faut vraiment avoir des lunettes qui vont gratter, je dirais, au plus près de la vérité. Et il y avait Lacan, vous savez, Lacan, le fameux psychanalyste, et c'est une leçon qu'il faut retenir. Il disait, Je dis la vérité, virgule, pas toute, car toute la vérité, je ne saurais la dire. Et c'est vrai.
Oui.
Mais c'est vrai. Alors, imaginez, quand ça se passe avec quelqu'un, je dirais, qui verbalise, mais pour un historien qui, normalement, devrait avoir une écriture objective, la vérité, on ose espérer qu'il est au plus près de la vérité.
Oui,
on est bien d'accord.
Voilà, je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Voilà. Hein, je pense qu'il y a des historiens qui font très bien leur travail.
C'est important de mettre l'accent là-dessus. Attention, il faut développer quand même un appareil critique, y compris dans ce qui est transmis. Parce que, en fait, je vais dire une chose. On parle du révisionnisme. Mais il y a aussi un bon révisionnisme. Révisionnisme dans le sens de réintégrer une réflexion autour de la pensée historique.
Bien sûr.
Vous êtes bien d'accord?
Oui, oui. Et puis, ce que je voulais souligner aussi, c'est les liens entre, justement, la linguistique en tant que science et l'histoire en tant que science.
C'est ça.
Ce sont des liens qui sont relativement récents, en fait. Pendant longtemps, les historiens ont considéré que l'approche linguistique, elle était complètement étrangère à l'histoire, voire qu'elle était inutile. Au même titre que l'analyse du discours s'est développée à la fin des années 60, début des années 70, les liens se sont également développés. Oui. On a commencé à amorcer une réflexion en se disant peut-être que les linguistes peuvent apporter quelque chose aux historiens. D'ailleurs, j'ai apporté, si vous me le permettez, j'ai repris un texte de Régine Robin, grande historienne qui nous a quittés il y a quelques années. Alors, c'est un texte qui date, il est de 1973, dans une revue qui s'appelle Mouvement social.
Oui.
Et donc, dans cet article qui s'intitule, je vous reprends le titre, « Langage et idéologie », elle écrit « Pourquoi le discours, la façon dont les hommes, dans leur pratique, appartenant à des groupes sociaux définis dans des situations précises, se définissent et définissent le monde, leur histoire, leurs rapports, la façon dont ils expriment tout cela dans leur langue avec les mots qui sont les leurs, depuis le néologisme jusqu'aux stéréotypes, les figures de style qu'ils affectionnent, les métaphores qui, à leur insu, s'imposent à eux, les tournures syntaxiques qu'ils utilisent de façon récurrente, pourquoi tout cela ne constituerait-il pas, à part entière, un domaine de l'histoire ? »
Mais bien sûr.
Alors maintenant, ça paraît évident, parce que depuis, les choses ont beaucoup évolué. Mais voilà, il y a 50 ans, ce n'est pas du tout une évidence pour un historien d'aborder les
tout
textes
à fait, mais tout à
sous
fait.
Cet angle-là.
Mais je me souviens qu'on s'était rencontrés, maintenant il y a deux ou trois ans, je crois, sur le lieu d'une manifestation. En fait, quand vous m'aviez appris que vous étiez maître de conférence en linguistique, évidemment, ça a fait tilt tout de suite, un déclic tout de suite, parce qu'il m'a semblé que votre apport est important aujourd'hui pour penser l'histoire, tout simplement, pour faire ce pont entre votre discipline et, évidemment, la matière historique. Et peut-être que nous sommes aux prémices, je dirais, d'une nouvelle voie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il faut peut-être l'espérer. Mais est-ce que vous êtes confiante?
Oui, puis je pense qu'elle a été ouverte. Je suis en train d'accompagner une étudiante dans son mémoire de recherche. Où elle voulait travailler sur des formules toutes faites. J'ai réalisé, par exemple, qu'il y a un travail qui est paru en 2003 au CNRS édition d'Alice Crick-Planck, qui est une collègue linguiste spécialiste d'analyse du discours, sur la formule purification ethnique, son histoire, sur l'histoire de cette formule. Il y a trois ans, en 2021, il y a un historien, cette fois, Sébastien Ledoux, qui a publié un ouvrage toujours chez CNRS Éditions, qui est « Le devoir de mémoire, une formule et son histoire ». Donc, le titre est exactement le même, et c'est intéressant de voir que, d'un côté, c'est l'approche d'une linguiste, et de l'autre, l'approche d'un historien. Ça montre bien les liens évidents qu'il y a entre l'histoire et la linguistique, en tant que discipline scientifique.
Il y a un pont évident, hein. En même temps, je dirais, l'importance, une voie qu'il ne faut pas méconnaître aussi, c'est l'écriture de ce qu'on appelle le roman national.
Oui.
Alors là, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais là, il faut effectivement une écriture qui soit très serrée, qui soit au plus près, évidemment, de la vérité. Et Dieu sait si elle est difficile à mettre en œuvre. dans la mesure où, vous le savez, Fernand Braudel, à l'époque, même avec Marc Bloch, dressait un portrait de l'histoire où il convoquait autour d'eux la géographie et tellement de sciences humaines. Et ce qui est incroyable, c'est que cela n'a pas été visiblement repris à leur suite. C'est ça que je ne comprends pas très bien. C'est qu'au fond, on est resté intangiblement dans une histoire, mais qui ne convoquait pas à soi les sciences humaines. Et est-ce que vous l'avez noté, ça?
Je pense que la science historique est restée longtemps isolée.
Isolée, on est bien d'accord. Voilà, c'est le terme, isolée.
Alors qu'elle a tout à gagner à aller interroger donc, les linguistes, mais également les sociologues.
Bien sûr, les anthropologues, bien sûr.
Les géographes.
Les géographes,
également.
bien sûr.
Même si là aussi, j'ai travaillé il y a quelque temps sur la notion d'espace.
Oui.
Et on voit bien que là aussi, il y a des travaux qui ont émergé, alors, qui mettent en lien des historiens.
Très bien. Vous me dressez un pont également. C'est qu'il y a aussi la nécessité d'en passer aussi par une écriture, et alors ça, c'est votre champ de recherche qui me semble très original, c'est que, en fait, il y a aussi une écriture, je dirais, qui met en scène les plaques, notamment, qui ont été apposées à propos de la Seconde Guerre mondiale. C'est votre champ de recherche.
C'est mon champ de recherche, effectivement.
Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes de cette recherche aujourd'hui?
Alors, c'est une recherche que j'ai commencée il y a presque 4 ans maintenant, si je compte bien. Donc, ça a été un long travail de collecte de corpus. Hein. Alors, je me suis limitée à l'espace parisien, les 20 arrondissements parisiens, ce qui représente un ensemble de 1700 plaques.
1700
plaques, dont 400 en mémoire des enfants scolarisés, dans 400 écoles à Paris.
Alors, attendez, je marque une petite pause. Là, il faut pour les amis qui nous écoutent, aujourd'hui, on peut dire que 400 plaques ont été apposées en mémoire des enfants juifs déportés.
Dans les écoles parisiennes.
Dans les écoles parisiennes.
Qui existaient à l'époque.
D'accord.
Oui.
Bon, ça, c'est déjà une chose importante. Pour l'ensemble des plaques concernant la Seconde Guerre mondiale, vous parlez de combien de...
1300. Donc, les plus anciennes étant les plaques en mémoire de la Libération.
Oui.
Qui sont apparus, alors c'est intéressant, qui sont apparus sous forme que j'appellerais provisoire dans un premier temps. Par exemple, des messages écrits à la craie sur une ardoise, sur un mur, voire sur le sol, et qui sont devenus ensuite des plaques en dur.
Oui.
J'ai des preuves dans les archives, des archives photographiques. Je sais qu'il existe sur le site de l'INA un film qui date des actualités françaises, qui date du 25 août 1945, et dans lequel on voit un certain nombre des plaques en mémoire des victimes de la Libération, essentiellement dans le 5e, 6e et 1er arrondissement, et donc qui, le 25 août 1945, existent déjà et qui existent toujours.
Ça, c'est fou. Alors. Voilà. Dans les premiers jours de la Libération.
Dans les premiers jours. Et alors, ça donne des plaques qui sont parfois très difficiles à décrypter, parce que ça s'apparente plus presque à une pierre tombale. On a un peu l'impression d'un cimetière à ciel ouvert. D'ailleurs, dans les sous-titres des photos que j'ai pu trouver via le musée Carnavalet, ils écrivent « tombe ». Si c'est un message écrit sur le sol, ils écrivent « tombe ». Donc, ça renvoie bien à cette idée de cimetière. Et je pense à une plaque, par exemple, qui se trouve dans le cinquième arrondissement, où il y a simplement écrit « Adjudant Berger, 1944 ». C'est tout. Ne pouvait parler qu'à des personnes à l'époque qui ont pu être témoins ou qui savaient décrypter parce qu'ils ont été témoins de ces événements. Mais quand on passe devant aujourd'hui, ça devient très compliqué
alors,
à décrypter.
Alors, ces plaques, elles ont été apposées à l'initiative des familles. Je dirais des pouvoirs publics, comment ça s'est fait?
Alors, les toutes premières sont souvent des initiatives individuelles, privées.
D'accord, voilà. Privées.
Sans autorisation préfectorale, alors qu'il aurait dû à l'époque. Donc, à l'époque, c'est encore le département de la Seine, qui inclut davantage que Paris, qui inclut également une partie de la petite couronne. Mais il y a des plaques qui ont été apposées de manière sauvage. Alors, il y a eu un débat dans les années, 1946 pour savoir justement si on conservait ces plaques qui avaient été apposées sans autorisation. Et puis, donc au niveau de la préfecture. Et puis finalement, les autorités se sont dit que c'était des manifestations spontanées de reconnaissance.
C'est ça. Je suppose qu'en même temps, on voit très bien, je dirais, la scène. C'est que, bon, à côté de cette plaque, il y a un petit bouquet de fleurs, par exemple.
Oui, alors ça, c'est maintenant, c'est beaucoup plus récent. Oui, mais c'est la ville de Paris
qui s'est fait probablement déjà tout de suite.
Alors, à l'époque, c'était plus qu'un petit bouquet. Voilà, sur d'accord. Les photos qu'on voit, c'est un monceau de fleurs, comme on peut trouver sur une tombe au moment d'un enterrement.
Oui, c'est ça. Ce qui est passionnant dans votre recherche, c'est qu'on suppose... Alors, vous parlez de l'écriture, mais cette écriture, elle nous permet alors d'être en plein dans l'histoire, parce que, en fait, au fur et à mesure du temps, vous parlez de 1945... On est en 2024, je dirais qu'il y a eu aussi toute une évolution historique qui s'est faite dans l'écriture.
Dans l'écriture, oui. Alors, pour moi, l'évolution, elle est liée à un phénomène important qui est les changements d'écriture, qui est le passage de la mémoire à l'histoire.
C'est ça.
C'est un historien allemand qui a travaillé sur ce sujet, qui s'appelle Jan Assmann, et qui montre très bien qu'au bout de, je crois, deux générations, tout ce qui relève de la mémoire bascule dans l'histoire parce qu'il n'y a plus de témoins. Et ça se voit très bien dans les plaques les plus récentes, dont j'ai tendance à dire qu'elles sont bavardes, parce qu'elles sont beaucoup plus longues, parce qu'il faut expliciter un certain nombre de choses. Ça me fait penser à une plaque qui se trouve porte de Bagnolet, en mémoire, ma mémoire est bonne, de Léon Rabinovitch, qui avait fait partie des FTP Moy. Il est mort au début des années 2000, je crois, et la plaque a été posée à l'initiative de son fils. Et il voulait effectivement que figure FTP Moy. Et la mairie de Paris, qui a pris en charge, parce que la plupart des plaques maintenant sont prises en charge par la ville de Paris, a voulu expliciter ce que voulait dire FTP Moy. Et le fils en question, qui avait certainement baigné dans cette histoire, dans cette mémoire familiale, etc., c'est presque insurgé dans les échanges que j'ai pu retrouver dans les archives, qu'on puisse avoir besoin d'expliciter ce que voulait dire FTP Moy. Alors que je pense que pour la plupart... Alors, maintenant que
Manouchian
a été panthéonisé, peut-être que c'est quelque chose qu'on connaît davantage, mais je pense qu'en 2009, la plaque a été posée en 2009, je pense que la plupart des Parisiens ne savaient absolument pas ce que voulait dire FTP Moy. Et il y avait cette nécessité de pédagogie, d'expliciter ce que c'était. Oui. Et j'ai plusieurs exemples de plaques comme ça qui deviennent, où le texte s'allonge, parce qu'il faut expliquer.
Ben oui, il faut l'accompagner.
Sinon, ça devient complètement incompréhensible. Et sinon aussi, en lien avec l'actualité, il y a une plaque quai de Montebello dans le 5e arrondissement, en mémoire des victimes du Front National du 5e arrondissement. Cette plaque a été vandalisée un certain nombre de fois. Évidemment, Front National a été rayé plusieurs fois. Je suis tombée sur des courriers qui ont été envoyés à la ville de Paris disant quand même c'est scandaleux de mettre en valeur ce parti, etc. Et là, c'était de l'ignorance totale de ce qu'était l'histoire, puisque le Front National, c'était une émanation du Parti communiste. Qui était évidemment non autorisé, clandestin à l'époque. C'était la branche armée du Parti communiste et donc rien à voir avec le Front National qu'on a connu depuis 1972. Et depuis que le Rassemblement National a pris la relève du Front National, apparemment cette plaque est de nouveau laissée tranquille.
Alors, il y a aussi une question qui m'intéresse. Alors, peut-être que vous allez évidemment pouvoir me répondre. C'est le fait qu'on sait, par exemple, que la mémoire juive assassinée a été longue à se mettre en place dans l'histoire. Il y a eu, je ne vais pas revenir là-dessus, mais au départ, c'était la mémoire résistante, Buchenwald, et il faut des décennies avant de pointer la mémoire d'Auschwitz, d'une certaine façon. Est-ce qu'au niveau des plaques, vous sentez, je dirais, ce basculement, dans Paris en particulier, qui fait que cette écriture... pour les plaques de la Seconde Guerre mondiale, d'un seul coup, vont mettre davantage l'accent sur les victimes juives.
Oui, pour moi, c'est le milieu des années 90, voilà, de manière évidente.
C'est ça. Et là, c'est net. C'est net.
Ah, c'est très net. Oui. C'est très net. C'est vraiment le vrai début de la mémoire, des victimes juives à travers les plaques. Alors, il y a des plaques plus anciennes qui existaient, mais où le sort des victimes n'était pas vraiment explicité, victime des
notamment,
nazis.
Notamment ce fameux mot juif, beaucoup gommé.
Oui. Si je reviens sur les plaques qui figurent dans les écoles, donc on va dire les premières officielles datent de 1997, hein, c'est le comité Tlemcen, donc de l'école de la rue Tlemcen dans le 20e arrondissement.
On a bien connu les initiateurs. Oui.
Mais j'ai découvert qu'il y en avait une qui était plus ancienne, rue Baudricourt dans le 13e arrondissement.
Oui.
J'ai une photo de l'inauguration de la plaque par Jacques Toubon, qui était maire du 13e arrondissement à l'époque. Et sur la plaque est indiqué que des enfants de cette école avaient été déportés entre 1942 et 1944, sans mentionner du tout le fait qu'ils ont été déportés parce qu'ils étaient juifs.
C'est ça.
Alors qu'à partir de 1997, sur les plaques du 20e arrondissement et ensuite sur toutes celles qui ont été posées et qui continuent d'être posées, puisque ça continue, c'est mentionné de manière très, très explicite.
Tout à fait. Alors, voilà, il y a une réflexion qu'on peut se faire, c'est que l'histoire, l'histoire, elle est ce que les hommes en font, hein, bien sûr. Est-ce à dire que ces plaques ont aussi une genèse? C'est-à-dire le fait qu'il y a eu, au fur et à mesure du temps, des pressions, en particulier des associations, des témoins, pour faire en sorte que la vérité éclate, je dirais, au grand jour, à travers l'écriture des plaques.
Oui, alors, j'aime pas trop le mot pression, je trouve que
c'est
un petit peu négatif.
Oui, vous avez raison,
Mais un vrai engagement.
Engagement,
c'est un vrai engagement.
Non, on peut parler de pression aussi. Hein. j'ai connu des amis qui était horrifié de voir qu'en réalité, c'était trop neutre, la plaque était trop neutre. Ils sont allés voir les pouvoirs publics. Hein. Ils ont eu gain de cause.
Et alors, là aussi, c'est un cheminement. Je n'ai pas les dates en tête, mais je sais qu'au départ, c'était à l'initiative d'associations qui ont un peu été laissées toutes seules à gérer ça. Je crois que dans un premier temps, la ville de Paris a pris en charge uniquement les plaques qui étaient situées à l'extérieur, donc dans l'espace public, et les plaques à l'intérieur avec les noms des enfants à l'intérieur des écoles. Je crois que c'était encore à la charge des associations avant que, je crois que c'est Bertrand Delanoë qui a fini par prendre en charge l'intégralité de l'élaboration et de la pose de ces plaques. Donc il n'y a rien d'évident dans tout ça, et s'il n'y avait pas eu ces associations et... comme vous dites, la pression de ces associations, je pense qu'on n'en serait pas là. Aujourd'hui.
C'est ça. Alors, la question aussi, c'est le rôle que peut... Alors, il y a l'écriture, on vient d'en parler, les difficultés aussi, et puis l'inflexion de l'histoire au bout d'un certain moment. Maintenant, le rôle de ces plaques, au fond, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une action, entre guillemets, pour la population? Parce que je pense à quelque chose. Quand on passe devant une école... comme une à Paris, une école primaire, et on voit ces plaques, ces lettres d'or sur fond noir. Ce serait intéressant de voir, comme ça, d'observer si, au fond, il y a quelque chose qui parle de cette plaque, ou si ça devient quelque chose comme un mur. C'est une réflexion qu'on peut se faire, quand même.
C'est le problème de leur visibilité.
Voilà, exactement, la visibilité.
Et moi, ce que je peux observer, c'est que souvent, on ne les voit pas.
Voilà, ben oui.
Alors moi, évidemment, je m'exclus parce que moi, je les vois et je sais où elles sont. En plus. Donc, je les identifie tout de suite. Mais j'ai le souvenir d'être intervenue dans un établissement scolaire, le collège, je crois que c'est le collège Charles Péguy, avenue Simon Bolivar, auprès d'élèves de 3e. Qui avaient été très intéressés par ça. Et leur enseignant m'avait réécrit quelques jours après pour me remercier en me disant « Mais maintenant, ils voient des plaques partout. » Et en l'occurrence, dans le 19e arrondissement, notamment en mémoire aussi de la résistance, il y a un certain nombre de plaques. Donc, je pense qu'on passe devant et souvent, malheureusement, on ne les voit pas. C'est un peu un problème parce qu'elles font partie du paysage. Et on n'y prête plus attention.
Oui, je comprends. Alors, en même temps, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait nécessité d'un appareil critique. Il me semble qu'il y a aussi nécessité de la part des enseignants de ces écoles, au moins un jour de l'année, à l'occasion d'une commémoration historique, encore une fois, de dire, écoutez, voilà, il y a une plaque sur le mur de cette école. Maintenant, il faut savoir que parmi vos anciens camarades, qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus, eh bien, ces plaques ont été mises en hommage, en leur mémoire, et donner quand même quelques explications concernant tout simplement le fait que dans ce pays, il faut quand même le rappeler, c'est 11 400 enfants qui ont été arrêtés, déportés, assassinés à Auschwitz. Mmh. C'est pas rien. Donc, il me semble que là, l'éducation nationale, bon, si la plaque est sur le mur de l'école, c'est une bonne chose, bien sûr, mais en même temps, il faut accompagner. Vous êtes
bien
d'accord?
Bien sûr, il faut accompagner. Alors, certains établissements le font, oui, et le font très bien.
Très bien.
Également en invitant encore les quelques survivants qui peuvent témoigner.
Oui.
Mais malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux ou de plus en plus fatigués, et ça devient difficile de les solliciter. En revanche, je ne peux pas vous cacher qu'il y a des établissements, parce que quand je me suis rendue dans les établissements, j'ai posé la question, il y a des établissements où rien n'est fait.
Mmh.
Je peux même évoquer un établissement dont je ne citerai évidemment pas le nom, qui m'a dit « Ah bon, vous êtes sûr, il y a une plaque dans l'école ?»
Alors, il y a des arrondissements dans Paris qu'il faut saluer. Je pense par exemple à Mémoire et Histoire. Hein, bon,
oui.
Parce que en fait, il y a un gros effort qui est fait dans la direction de cette didactique, hein, où on fait venir, je pourrais citer par exemple mon amie Régine Lipp, qui va souvent dans les écoles pour expliciter ce qui s'est passé comme témoin. Donc ça me semble très très important. Et alors, là aujourd'hui, il nous reste quelques minutes, si on fait le point autour de votre recherche, est-ce que vous pensez que ça peut, allez, il y en a encore pour longtemps, ou ça peut aboutir d'ici quelques mois, d'ici, allez, 2026, 2027 ou...
Le travail que je réalise.
Oui.
Alors, ça
l'estimation.
Va...
non, parce que je ne vous cache pas que ça m'intéresse, votre travail m'intéresse. Et que, évidemment, je vous le dis ce soir, mais on se reverra. Parce que, encore une fois, vous ouvrez une voie qui me semble importante et il faut vous suivre. Je vous le dis.
C'est gentil. Alors, initialement, c'était prévu pour 2024. Et puis, bon, pour différentes raisons, ça a pris du retard. Et puis surtout, alors je pense que je vais faire deux ouvrages, un ouvrage plutôt grand public, on va dire, sans que ce soit péjoratif, mais plus un ouvrage historique sur l'histoire des plaques, qui
c'est
est
ça.
Un travail très difficile à mener parce qu'à part pour les plaques récentes, il y a très peu d'archives qui existent.
Il faut bien préciser, c'est pas une exposition de plaques, c'est une histoire des plaques.
Histoire
il y a une grosse
plaques.
Différence.
Oui,
hein.
oui.
Parce qu'on aurait pu prendre un album et puis mettre les plaques les contiguës.
Oui, ça existe,
mais là,
ça existe par ailleurs
ça revient,
déjà. Donc,
ça revient au même que le passant, d'une certaine manière, qui va passer devant le mur de l'école.
J'ai pu, pour certaines écoles, pour certaines plaques, retracer leur histoire, retracer aussi l'histoire des personnes dont le nom figure sur ces plaques. Et puis, un travail... plus linguistique, et là, plutôt destiné à un public universitaire,
c'est
avec
ça.
Une approche davantage linguistique sur la manière dont sont formulées les choses. Sur, par exemple, j'ai fait des travaux déjà sur les plaques sur lesquelles figurait le mot « Bosch ».
Oui.
Il en existe encore deux
ça.
À Paris.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Et ça a été effacé, notamment autour de 2005. On a effacé, on a remplacé « Bosch » par « Nazi ». Avec tout le problème que pose le choix du terme nazi et pas du terme allemand. Bon, là, c'est vraiment un travail de
linguiste. Mais là,
vous
vous rendez compte qu'à la fin de l'émission, vous nous donnez l'exemple flagrant, concret, de ce pont que l'on peut faire entre langage et histoire.
Bien sûr,
parce que c'est quand même passé complètement, je dirais, aux oubliettes, ce terme-là.
Parce que ces plaques, la mairie de Paris, elle a encore reçu des courriers de gens qui disaient, mais... à l'heure de la réconciliation franco-allemande, de la construction européenne, vous imaginez... Alors, la plupart des Allemands ne connaissent pas du tout le mot « Bosch ». J'ai fait le test dans mon entourage. Mais c'était pour eux un discours de haine. Oui. Et par exemple, une des plaques qui reste dans le 10e arrondissement, rue de l'Échiquier, comme une plaque devient immeuble par destination, donc appartient à l'immeuble et aux propriétaires de l'immeuble, là, les propriétaires ont refusé. La copropriété a refusé en disant « mais c'est une manifestation historique d'un état d'esprit à l'époque des gens qui ont posé la plaque, donc on ne veut pas qu'elle soit changée, elle reste telle qu'elle ». Donc là, on voit très très bien le lien effectivement entre linguistique et histoire.
Félicitations Céline Largier-Vier. En tous les cas, il faut me faire une promesse, hein, c'est de revenir, refaire un point autour de vos travaux, parce qu'encore une fois, ils sont vraiment très très utiles pour la compréhension de l'histoire. Merci, chers amis. À mercredi prochain.
Mémoire et vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.